France Inter. L'heure philo. Bienvenue à l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Thomas Allard à la console. Il coule depuis la nuit des temps, silencieux, impétueux, discret ou abondant.
Les pleurs sont toujours une forme d'audace en fait, parce qu'elles interrompent tout simplement une fonction, une habitude, une routine. Et donc, cette interruption, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est quelque chose que l'on ravale, au sens où on ravale ses larmes? Ou est-ce qu'on ose les laisser couler sur le visage? C'est déjà une question, en quelque sorte, de courage qui se pose avec les larmes. Et c'est très intéressant parce que, si vous voulez, dans l'imagerie populaire, on imagine volontiers que les larmes viennent de façon purement passive. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'involontaire dans la venue des larmes sur le visage. Et en même temps, il y a ce moment où les larmes pourraient disparaître et où il faut les laisser peut-être couler jusqu'au bout pour qu'elles puissent vraiment nous indiquer quelque chose de notre existence.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter. Les pleurs, les larmes, les sanglots, expérience universellement partagée, mais au fond, aucun pleur ne ressemble à un autre. Estelle Ferrarez et Sarah Rez sont nos invités. Estelle Ferrarez, vous signez un essai intitulé Une philosophie des sanglots, publié chez Bibliothèque Rivage. Sarah Rez, votre livre sorti chez Anamosa, nous parle du pouvoir de pleurer dans l'Antiquité. Les larmes de Rome, tel est son titre. Alors, on vient d'entendre le philosophe Guillaume Leblanc dire qu'il faut laisser les pleurs couler jusqu'au bout pour qu'ils puissent nous indiquer quelque chose de notre existence. Estelle Ferrarez, est-ce que ce quelque chose ne serait pas une forme d'impuissance, au fond?
Alors, tout à fait. Les pleurs, et plus généralement, enfin, les pleurs en général et les sanglots en particulier, sont des réactions physiologiques qui surviennent face à des expériences de l'impuissance en général assez radicales, comme par exemple un deuil, comme une rupture, comme une humiliation, comme un échec professionnel. Et effectivement, les sanglots sont un phénomène tellement extrême, dans la mesure où ils vont mobiliser l'entièreté du corps.
C'est le chaos du corps, c'est en fait, ça, hein, les sanglots.
Donc ils nous obligent finalement à regarder ce que nous sommes, c'est-à-dire un être impuissant. Donc il y a effectivement une confrontation avec des choses que... des éléments ou une définition de soi que nous n'avons pas habituellement.
Mais la philo est plutôt rétive, ça vous l'écrivez, quand il s'agit de penser l'impuissance précisément à laquelle les sanglots sont liés.
Oui, c'est la philosophie a une longue histoire d'intérêt pour la puissance sous différentes formes, hein, la volonté de puissance, la puissance de la volonté, la puissance de la pensée. Et c'est vrai que l'impuissance, c'est quelque chose avec laquelle elle se sent beaucoup moins à l'aise. Enfin, je dis elle, mais je devrais plutôt dire il, puisque ce sont des philosophes hommes la plupart du temps, qui, lorsqu'ils s'emparent de l'idée d'impuissance, c'est pour la jeter au loin très rapidement.
Mais quand il y a sanglot, est-ce qu'il y a un arrêt, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a un arrêt de la pensée?
Oui. Alors ça, c'est quelque
chose... suspens.
C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu être vérifié par les neurosciences. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement des activités, enfin des parties du cerveau qui sont impliquées dans la pensée. Si vous prêtez attention lorsque vous sanglotez à ce qui se passe, il y a véritablement une attaque du diaphragme contre un certain nombre de facultés qui vont habituellement d'elle-même. Par exemple, la respiration, la première chose, c'est que le souffle est coupé.
Mais on hoquette quand on sanglote.
Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, la parole est coupée. En fait, si on veut continuer à parler, ben, il va falloir lutter. Et puis, ce qui finit par sortir, c'est souvent des choses assez déformées, grotesques, pas forcément compréhensibles. Et puis, dernier niveau d'analyse, ben, c'est la pensée. La pensée, elle se hache, voire elle s'interrompt complètement. Ce qui va surnager, c'est des images, des slogans. En tout cas, rien de ce flux que nous avons habituellement lorsque nous dialoguons avec nous-mêmes. Et donc, cette impuissance, finalement, qui a provoqué le sanglot, elle est doublée, redoublée par ce que fait notre corps. C'est-à-dire, il nous empêche absolument de parler, de penser. Donc il y a vraiment, nous sommes obligés de nous tourner vers cette impuissance en fait. On ne peut pas faire comme si.
Sarah Rey, votre domaine, vous, c'est l'histoire ancienne. Dans la Rome antique, est-ce qu'on pleurait à tout bout de champ?
Ah oui, les sources le prouvent amplement. Et toutes les catégories de la population, de l'empereur aux soldats, du sénateur jusqu'au consul, au peuple.
Même les chevaux ont pleuré.
Même les animaux dans certains prodiges romains, donc certains faits considérés comme exceptionnels, des messages envoyés par les dieux.
Oui, on pleurait encore plus, déjà chez les Grecs on pleurait quand même un peu, oui. Mais chez les Romains on pleure encore plus.
Alors, c'est ce qui ressort de certains textes. Alors si par exemple on met en parallèle les vies de Plutarque, qui sont déjà des biographies conçues pour être mises en parallèle, vie grecque, vie romaine, Plutarque fait pleurer davantage les Romains que les Grecs. Bon, c'est peut-être un hasard, hein.
Ouais, ouais.
Mais on a l'impression que cette rivalité qui a tout le temps animé les Romains face aux Grecs, ben, on la retrouve aussi dans le domaine lacrymal. Avec des Romains qui veulent surenchérir, avec des affects particulièrement exubérants. Ouais.
Alors, vous nous direz si les Romains pleuraient dans leur alcôve, mais il y a un sens national des larmes. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les sanglots sont une affaire publique aussi.
Oui,
et très surtout peut-être.
Très largement publique. Là aussi, il faut faire avec nos sources, hein, qui ouais. filtrent tout ce qu'on peut savoir. Mais en effet, on pleure beaucoup dans les tribunaux, dans les réunions publiques, sur le forum, dans les grandes funérailles, qui sont aussi des affaires qui concernent tout le monde, pratiquement. Donc, oui, ce sont des larmes qui s'exposent, qui prêtent à des commentaires larges, comme ça, parce qu'on observe les pleureurs.
Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec la façon, parce qu'on se dit, bon, c'était quand même, c'est très éloigné pour nous dans le temps. Est-ce que ça a à voir avec une façon de pleurer aujourd'hui?
Oui, il peut y avoir des passerelles. On sait bien que nos hommes politiques peuvent continuer à pleurer, surtout s'ils sont filmés, d'ailleurs.
Ah, là, je sens la pique.
Oui,
donc, il y a une mise en scène à ce moment-là. Ou une insincérité, peut-être.
La question de la spontanéité, elle se pose souvent. Alors, oui, je fais peut-être du mauvais esprit, mais j'avais l'impression quand Obama ou Trudeau pleuraient que c'est parce qu'ils étaient filmés à ce moment-là. Ne serait-ce que parce que l'événement du pleur rend mieux quand il est filmé que simplement quand il est rapporté. Et alors, surtout pas photographié. Alors là, ça donne de très mauvais résultats.
Mmh. Il y a on parle là de sanglots, de larmes, de pleurs. Il y a une échelle. Comment est-ce qu'on peut les... C'est du moins au plus. Comment est-ce que vous diriez?
Ben,
oui,
je peux arrêter. En latin, il y a une très belle gradation lacrymale qui se trouve chez Cicéron, qui dit qu'on part de la lacrimula, de la petite larme, on va jusqu'à la larme copieuse quand même, la lacryma, et on peut aller jusqu'à la crise de pleurs irrépressible accompagnée de sanglots. Et donc là, ça se dit frétus, voilà, un terme en latin. Oui, il y a des intensités lacrymales différentes.
Oui, c'est votre avis aussi, Estelle Ferrarez?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut sangloter, avoir des sanglots secs, parfois de fatigue, par exemple. Et évidemment, on peut pleurer sans sangloter, de manière extrêmement paisible et calme. Donc il y a une gradation, mais du coup, ça crée des pôles qui peuvent être très éloignés l'un de l'autre.
L'humoriste et comédienne Alison Wheeler, elle était il y a deux jours l'invitée d'Eva Bester sur notre chaîne.
Je trouve que le matin, c'est un bon moment pour être névrosé, entre 9h et midi, régler ses comptes. Et le reste de la journée doit être fait pour faire des choses plus constructives. Alors le sport, c'est une bonne façon.
Ah oui, des choses un peu exutoires.
Oui,
d'accord.
Expulser. Je pleure beaucoup quand je fais du sport.
Ah bon?
Ouais, je chiale en courant, je chiale en faisant du vélo. La musique, ça m'émeut beaucoup.
Mais vous courez dans la rue ou dans des salles?
Les deux, surtout dans la rue.
Donc des gens vous voient pleurer en courant?
Oui. ce qui est très vendeur pour un spectacle. Venez me voir chialer, chouiner.
Alors, elle dit chouiner, ça a quand même un regard assez péjoratif, non, Estelle Ferrarez? Parce que c'est pas forcément injustifié. Il y a quelque chose peut-être dont on ne connaît pas la cause, mais la cause, elle est là quand même, même si elle est sous-jacente, pour qu'on pleure.
Oui, il y a un discours assez tranché sur les larmes et les pleurs en public, qui va notamment se traduire par le fait qu'il y a toujours un soupçon qui pèse en fait sur les pleurs dès lors qu'ils sont soit effectivement face à un certain nombre de personnes, soit filmés, comme on en parlait tout à l'instant. Et je trouve que c'est assez frappant de voir que c'est une des rares manifestations physiologiques qui est à ce point tout le temps scrutée et mise sous soupçon.
Mais est-ce que c'est pas parce que soi-même on est mal à l'aise parfois de voir quelqu'un pleurer, tout simplement, non?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'une des thèses que je défends, c'est que les sanglots, hein, donc c'est-à-dire la forme quand même la plus extrême, c'est à notre époque quelque chose qui fait peur. En fait, ça embarrasse. Et contrairement à des larmes plus calmes qui vont susciter la compassion et peut-être des gestes de consolation, en fait, les sanglots, c'est dans leur radicalité, repoussent en fait le public, et la posture même de celui ou de celle qui sanglote indique cette repoussée. En fait, on se ploie vers l'avant, on se cache derrière les poings, et donc il y a vraiment une sorte de mise à distance d'autrui qui rend très compliqué cette question du public, qui va tendre à être tranchée. Alors, à mon avis, ça a aussi beaucoup un rapport avec les femmes et le genre, d'être tranchée toujours du côté de la suspicion quant à la sincérité et quant au fait à la possibilité que lorsqu'on pleure, au fond, on appelle à la compassion d'autrui, on appelle à la réaction d'autrui, on appelle à la révision de la décision qui vient d'être prise, et sans peut-être aller jusqu'au bout de la phénoménologie, hein, de ce qui est en train de se passer, notamment dans les sanglots, c'est-à-dire une clôture du corps sur lui-même qui cesse de regarder autrui, et qui cesse, en quelque sorte, de s'adresser, voire repousse a priori toute forme de consolation. Ne t'approche pas de moi.
Je ne suis pas en état de te recevoir.
Exactement.
C'est un peu ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans les pleurs ou les larmes, par rapport précisément aux sanglots, une mesure, une juste mesure?
Oui, les romans ont l'air de le chercher, ce juste milieu affectif. Même si l'impétuosité n'est pas forcément gênante. Cicéron l'assume dans ses plaidoiries, il dit que voilà, on peut pleurer copieusement.
Non, mais ça lui a été reproché de pleurer pendant qu'il plaidait. Aujourd'hui, on voit un avocat pleurer au tribunal, c'est vrai qu'on va trouver ça bizarre, non?
Mais ça faisait partie des techniques rhétoriques assumées. Mais il fallait les limiter, ses larmes, ses pleurs, à la toute fin du discours. Dans ce qu'on appelle la péroraison. C'était la cerise sur le gâteau. Voilà. Mmh. Mais ne pas pleurer de bout en bout de son oraison, surtout pas. Donc, oui, après, on cherche à trouver un équilibre affectif, voire une impassibilité.
Ouais. Mais rien n'est plus fugace, au fond, qu'une larme, ça sèche très vite.
Oui, ça c'était même un adage que les orateurs répétaient, c'est que, attribué à un certain Apollonios, un rhéteur, rien ne sèche plus vite qu'une larme. Il y avait vraiment un tempo lacrymal à respecter, parce qu'il fallait émouvoir, voilà, à point nommé, et les juges, à l'occasion d'un tribunal, et un auditoire, si on est dans une délibération publique. Donc, oui, il faut savoir quand pleurer pour faire pleurer le public qui vous écoute.
Tout à l'heure, Estelle Ferrarez, nous parlions de la mélancolie. La mélancolie, c'est une véritable disposition du génie. Et j'aime, quand vous citez Kierkegaard, qui ne touche en général donc que les natures les plus douées. Donc on peut toujours se consoler comme ça.
Alors, oui, ça a certainement servi de consolation à beaucoup d'hommes qui se voulaient de génie, alors quelle que soit la discipline, hein, des peintres aux écrivains, en passant donc par les philosophes, puisque un des premiers à poser cette équation, c'est un philosophe. Alors ça c'était attribué à Aristote, aujourd'hui on doute que ce soit lui, mais enfin il y a vraiment ce moment où immédiatement, dès qu'on parle de mélancolie, on l'associe à des êtres de génie. Donc oui, c'est une consolation, mais j'allais dire c'est une consolation qui quand même est limité à des formes très immobiles de tristesse. Et justement, il me semble que ça a été une manière de placer dans la visibilité les sanglots en tant qu'ils supposent un débordement. Et là, c'est très peu représenté, ça n'est jamais assumé. Par exemple, la philosophie, oui. Vous n'allez pratiquement pas trouver de philosophes qui disent qu'ils sanglotent.
Nietzsche.
Voilà. Mais
non, mais racontez en deux mots, racontez l'histoire, parce qu'elle est,
oui,
elle
alors,
est incroyable. Elle est incroyable, non, mais elle est bouleversante.
C'est-à-dire que on trouve quelques philosophes qui parlent des larmes et qui parlent des pleurs. C'est toujours mis en général dans des écrits qui sont un peu mineurs. On va trouver ça chez Rousseau, par exemple. La crise de sanglots la plus connue de l'histoire de la philosophie, c'est celle de Nietzsche, en fait, qui, donc, à l'instant où il va s'effondrer dans la folie et donc quitter définitivement la philosophie, éclate en sanglots à la vue d'un cheval qui est frappé par son cocher de manière assez sauvage. Et en fait, il va se jeter à son cou. Et d'après la manière dont l'anecdote a été rapportée, il est en sanglots. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire finalement le seul moment où on a un philosophe qui sanglote, ben c'est qu'il n'est déjà plus philosophe.
Estelle Ferrarez et Sarah Zareff, vous êtes donc nos invités. Nous parlons des sanglots et des larmes. Bobby Solo, Una lacrima sul viso, soit on adore, soit on trouve ça mièvre à souhait. Je peux comprendre les deux, mais pour ma part, j'adore.
Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te, uno sguardo ed un sorriso, m'han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi. Trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Quelques messages personnels. les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Extrait de ce merveilux poème de Verlaine, chanson d'automne, les sanglots longs des violons de l'automne. Et c'était un message codé, en fait, hein, un moyen d'information pour les résistants, pour qu'ils sachent qu'il leur fallait saboter les voies ferrées allant vers la Normandie. C'était juste avant le débarquement. Dans Chanson d'automne, c'est la saison que Verlaine explore, et c'est aussi le vieillissement qu'il déplore. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce qu'il y a un manque, une absence de prise sur l'événement? Est-ce que c'est ça qui cause la douleur? Et est-ce que c'est ça qui finalement provoque les sanglots? Estelle Ferrarez.
Oui, je pense qu'effectivement, la question de l'impuissance...
Oui, on en revient à l'impuissance.
Oui, c'est
fait.
Ça. Le mot de prise là, que vous venez d'utiliser me semble particulièrement riche, et je l'utilise...
Oui, et vous dites qu'il y a une absence d'harmonie entre le monde et mes attentes. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, non? Il y a un peu de ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'impuissance, c'est le fait de ne pas avoir pu mettre en œuvre ses puissances. C'est aussi le fait peut-être de s'être confronté à un monde qui ne nous offre pas les prises. C'est-à-dire avoir prise, ça suppose que des prises nous sont tendues par le monde dans lequel nous vivons. Mmh. Et d'où le fait que certains corps, certaines personnes, donc, mais aussi certains groupes sociaux, se trouvent dans des positions, dans des situations qui ne leur tendent pas de prise. Et donc vont sangloter plus fréquemment.
Sarah Red, dans le privé, alors moi je voudrais revenir sur la façon dont les Romains pleuraient, si tant est qu'on ait des traces là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que c'est une façon d'expier? Est-ce que c'est une façon de supplier aussi que quelque chose arrive?
Oui, on a des rites de supplication bien connus dans l'Antiquité gréco-romaine où, on peut s'adresser comme ça à quelqu'un de plus puissant que soi, en pleurant devant lui, en s'agenouillant, en saisissant même ses genoux.
Alors ça reste public.
Ça peut se faire, dans l'intimité aussi. On sait que, par exemple, un certain Atérius qui s'était approché de l'empereur Tibère, alors c'est quelqu'un de puissant, vous allez me dire, mais a réussi à saisir les genoux de l'empereur qu'il voulait supplier, puis l'a fait tomber par mégarde. Donc, et les larmes, là, ont été totalement inutiles, les larmes d'Atérius, puisque cette supplication s'est terminée de manière lamentable.
Non, je parlais dans l'espace privé. Je voulais vous demander, oui. Est-ce qu'on sait?
On n'est pas toujours bien renseigné.
Parce qu'ils pouvaient pleurer au dehors et pas au dedans,
oui.
Finalement.
On a des poètes, mais qui évidemment rapportent à leur manière leur pleurs de dépit, par exemple, quand ils sont trahis par leur maîtresse, forcément inconstante. Bon,
ah bah, forcément.
Et ces larmes-là, des poètes élégiaques, sont à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'on a la mise en scène poétique qui va avec.
Est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même une mise en scène? C'est-à-dire que, vous me direz qu'on peut pleurer tout seul, mais est-ce que ce n'est pas même peut-être une mise en scène vis-à-vis de soi-même aussi? Ça peut être, je ne dis pas que ça l'est toujours. Est-ce que ça pourrait l'être?
Alors, j'utiliserai pas forcément le mot mise en scène, mais ce qui est évident, c'est que les sanglots sont une certaine technique, ou les pleurs en général. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui vont varier dans l'espace, qui vont varier dans le temps, qui fait qu'on ne sanglote pas de la même manière dans différentes civilisations. Ça veut dire qu'on ne sanglote pas pour les mêmes raisons, mais en fait, même très corporellement, hein, les gestes vont varier, certains vont être accentués. Et tout ceci tend effectivement à dire qu'il y aurait quelque chose comme un script. C'est-à-dire que, y compris ce que nous vivons comme une explosion de spontanéité, hein, c'est-à-dire j'éclate en sanglots, eh bien, malgré cela, nous, mais d'une certaine manière, imitons des gestes que nous avons déjà vus, soit chez nos proches, soit même y compris ce qui a été produit par l'industrie culturelle. Donc il y a, si c'est par là, une sorte de codification qui a, c'est pour ça que j'aime assez l'idée de script. Alors, est-ce qu'ensuite c'est une mise en scène? Là, ça va supposer une anticipation d'un public qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Ça, c'est peut-être autre chose. Pour la période contemporaine, moi, je suis plutôt rétive à cette interprétation, notamment puisque, en fait, bon, les enquêtes qui existent, les enquêtes sociologiques qui existent sur la question, tendent à prouver qu'en général, enfin, vraiment une énorme majorité, plus de 90% des cas, en fait, on sanglote seul.
Un homme est mort et des femmes autour de lui pleurent sur son cadavre. Voilà la situation. Il ne s'agit pas de chagrin. Les gens n'ont pas de chagrin. Dans le chagrin, on pleure sur soi. Dans le chagrin, l'émotion, il y en a une bien sûr, mais l'émotion dit « je ». Ici, ces gens-là ne pleurent pas sur eux-mêmes. Dans cette scène, c'est en fait tout un peuple qui se lamente. C'est quelque chose d'étonnant parce que c'est à la fois un événement très pathétique et très collectif. Ce moment où les pleurs de chacun deviennent, à un certain moment, le chant de tous. Ils se mettent à chanter, puis une réclamation politique faite de discours véhéments, notamment de cette jeune femme dont on parlera beaucoup, puis la colère et enfin la révolte, si ce n'est la révolution. Dans tout ce processus, l'émotion a bien cessé de dire « je ». Elle dit d'abord, elle dit « tu ». Elle dit « tu » parce qu'elle s'adresse à autrui. Elle dit « il ou elle » parce qu'elle ne garde plus son compte à soi et parce que c'est une émotion qui regarde l'autre. Et ça, c'est un défi de penser en quoi l'émotion regarde-t-elle.
Didier Huberman, philosophe et historien de l'art, commentant une scène de pleurs du film Le cuirassé Potemkin. Là, il n'y a pas de... C'est un film muet, d'abord, qui a fait un tabac, hein, c'est sorti en 1925, et c'est l'histoire d'une mutinerie, donc devant le port d'Odessa. Et ensuite, il y a eu une répression, et puis ça a été considéré comme un grand film de propagande. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène-là dont Didier Huberman parle? Vous le citez à plusieurs reprises, hein, dans votre livre, Didier Huberman.
Oui, oui, tout à fait. Il a écrit un très grand livre qui s'appelle Peuples en larmes, peuples en armes, et où effectivement il y a un raisonnement sur la dimension collective, en tout cas déclenchant une forme de collectif que peuvent avoir les émotions et les larmes en particulier. Autant il y a un certain nombre de choses que je considère tout à fait remarquables dans ce qu'il écrit, autant sur cette scène-là, je suis un petit peu réfractaire sur sa lecture.
Alors dites-nous pourquoi.
Parce qu'en fait, il passe à côté de l'aspect genré de la chose. En fait, il essaye de dire que ces sanglots sont véritablement le moteur d'une révolte et donc le ressort de l'apparition d'un peuple. Et ce faisant, en fait, il le voit et en même temps il ne voit pas que ce sont des femmes qui sont en train de sangloter. Donc on a effectivement une scène d'une population en train de se lancer dans une émeute, et il y a une grande différence entre des femmes en plus âgées qu'on va voir en gros plan et dont il y a eu toute une série de raisonnement, et notamment Barthes en parle, en se moquant de ces vieilles femmes qui sont particulièrement laides, enfin, qui sont ridicules. Donc, ensuite, ce que vont faire les hommes, c'est-à-dire serrer les poings et effectivement se lancer dans ce qui est véritablement une émeute. Et il me semble qu'il y a là une division des tâches qui n'est pas interrogée, et donc qui fait problème dès lors qu'on suppose l'apparition d'un collectif. C'est-à-dire que, au fond, les larmes de certains nœuds vont être le ressort de l'apparition d'une puissance politique d'autres, puisqu'en fait, ce sont bien les hommes qui vont passer à l'action s'ériger en sujet politique. Les femmes vont s'arrêter aux larmes. Donc, il me semble que là, c'est un peu, disons, biaisé comme lecture.
Je comprends. Sarah Rey, quand les Romaines pleuraient, alors les Romaines dans la vie publique, elles ne devaient pas avoir une énorme place.
Un petit peu quand même. Cette histoire me fait penser à Lucrèce, qui est une digne matrone romaine, violée par le fils du dernier roi étrusque de Rome. Elle appelle à la vengeance en pleurant. Et on est exactement dans la même mécanique, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont ensuite créer le régime républicain pour la venger. Mais de là à ménager une vraie place
politique aux femmes dans l'institution républicaine, non. Donc le petit grain là qui fait effectivement dérailler la machine politique, ça peut être des larmes de femmes, mais ça n'est pas suivi de beaucoup d'effets. En faveur des femmes, je veux dire.
Alors, il y a cette phrase de Diderot que vous citez, Estelle Ferrarez, « La larme qui s'échappe de l'homme, vraiment homme, nous touche plus que tous les pleurs d'une femme. »
Oui, je pense que là, il est... Alors, bon, Diderot, déjà, la première chose qu'il faut dire sur lui, c'est qu'effectivement, c'est un des rares philosophes qui parle des sanglots. Il en parle surtout dans ses écrits sur le théâtre. Donc, en fait, il va s'interroger sur la manière dont le comédien sanglote, comment... Enfin, donc, il y a vraiment un raisonnement sur cette question-là. Un moment où, en plus, dans l'histoire, les larmes et les pleurs sont assez légitimes, puisqu'en fait, il y a vraiment des variations. Voilà, ce que vient de nous dire Sarah Ray offre une autre illustration. Mais en fait, s'il y a toujours une différence genrée, en fait, il y a des moments où les larmes des hommes sont plus légitimes qu'à d'autres. Et effectivement, là, le XVIIIe siècle est un moment où les larmes, on le voit aussi avec Rousseau, sont quand même présentes, y compris en public, alors au théâtre, mais aussi lors d'événements politiques. Et donc, Diderot, là, souligne quelque chose que je trouve absolument intéressant. C'est cette mise, j'en parlais tout à l'heure, hein, cette mise sous suspicion des larmes et de leur cause, c'est quelque chose qui va s'attacher tout particulièrement à ce que font les femmes, qui auraient tout un art.
Parce que la femme, c'est Beauvoir aussi qui parle du système nerveux et sympathique des femmes, et donc elle aurait moins de résistance.
Alors justement, ça c'est quelque chose contre lequel elle va. L'idée, c'est qu'elle admet que les femmes pleurent plus souvent, mais justement elle dit que ça n'est pas du tout une affaire de nerfs, ça n'est pas du tout même une affaire d'éducation. C'est aussi le fait qu'elles vont être confrontées à la limite de leur puissance, même si elle n'emploie pas ce mot-là, et donc d'autant plus vont se retrouver à ne pouvoir réagir que par des formes de dépenses complètement inutiles, hein, qui miment leur impuissance.
Des femmes affligées, comme consumées par un immense chagrin, celui de la perte d'un être cher. Une scène si déchirante qu'on en oublierait presque qu'elle est simulée par ces pleureuses professionnelles. Pour gagner leur vie, elles sont payées pour se lamenter aux funérailles de parfaits inconnus. Et avant chaque prestation, comme des artistes, elles répètent leur spectacle sous le regard médusé de l'assistance.
Ce métier, c'est ce que j'ai dit, je choisis. Parce que ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des fois, mais quand je suis là, je chante, moi, et puis je pleure.
Louer ses pleurs, un business des larmes qu'il leur apporte entre 200 et 300 000 francs CFA, soit 300 à 450 euros par cérémonie. Le don de pleurer en public est une tradition transmise de mère en fille chez les Bété, une ethnie du centre de la Côte d'Ivoire. Les pleureuses traditionnelles sont fermement décidées à écumer les enterrements avec un rêve au bout des larmes, gagner en notoriété et entamer une carrière internationale.
Reportage sur les pleureuses professionnelles qui a été diffusé sur France 24. Il n'y a pas de pleureurs professionnels.
On parle de pleureuses, en effet, de pleureuses à gages qui sont... embauchés par les familles qui en ont les moyens à l'occasion de funérailles et qui vont chanter des chants funèbres bien spécifiques tout en pleurant, à moins que ces chants suffisent à exprimer leur déploration.
Mm-hmm. Et en entendant Estelle Ferrarez tout à l'heure parler des pleurs des femmes, ça vous a inspiré des réflexions propres ?
Oui, parce que la misogynie romaine est tout à fait à son aise dans la description des larmes de femmes. On a un auteur d'aphorismes qui s'appelle Publius Syrus qui dit que les larmes féminines sont des ingrédients de malice. Donc, nécessaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les ingrédients de malice ?
Bah, qu'elles assaisonnent tous les chantages possibles. Qu'il ne faut pas croire à une femme qui pleure devant vous parce qu'elle est en fait en train de vous manipuler.
Vous y voyez des résonances, puisque je disais en commençant, et vous l'écrivez d'ailleurs, que ça paraît très très lointain, la romantique, mais qu'il y a aussi des résonances avec notre époque.
Oui, sur l'insincérité des larmes féminines, je crois qu'on peut en trouver facilement des échos aujourd'hui. Et dans l'Antiquité romaine, ça va de Cléopâtre pleurant en vain devant Octave. Elle demande un adoucissement de sa peine, probablement. Enfin, elle voudrait échapper à sa condition future de prisonnière. Elle va être obligée de se suicider. Mais elle pleure devant, devant Octave, futur Auguste, en vain, parce que le texte sous-entend que Octave comprend que ça n'est qu'une manipulation.
Mais si ça avait été un homme, est-ce qu'on aurait pensé la même chose ?
Et tout dépend de son statut social.
C'est ça.
Un sénateur dont on connaît la carrière, issu d'une grande famille romaine, aristocratique, a le droit de pleurer. Et on lui reconnaîtra toujours des qualités de pleureur.
Et quand des soldats, par exemple, ça aussi vous le racontez, quand des soldats pleurent, on leur reproche précisément d'en faire trop, comme vous venez de le dire pour Cléopâtre ?
Oui, alors là aussi, il faut voir le grade du soldat en question, parce que quand Jules César s'épanche devant ses légions au moment de la traversée du Rubicon, Suétone, pardon, est le seul à rapporter les larmes de Jules César en disant que oui, quand même, il est allé trop loin. D'autres sources n'en parlent pas comme si finalement ça avait pu être toléré.
Mais après une défaite, même les généraux ont le droit de pleurer.
Ah oui. Alors là, c'est un topos qu'on rencontre souvent dans les sources latines et grecques. C'est les pleurs versés par de grands impératores, par de grands généraux, à l'issue de leur conquête, sur des villes détruites, au moment où elles sont en train d'être détruites. Par exemple, Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, et là, vous avez Scipion Émilien qui n'en peut plus et qui, en présence de Polybe, pleure sur le destin de cette ville qui avait causé pourtant tant de tort à Rome.
Mmh. Est-ce que vous diriez pour autant que la politique à Rome, est une, dans la Rome antique, est une affaire de sentiments ?
On a cette impression-là. Les affects trouvent une grande place quand même donc dans les discours, dans la manière même de conduire la vie politique. Mmh. Oui. Dans les triomphes, par exemple, on va faire défiler les enfants des souverains vaincus et le peuple pleure un petit peu de commisération, mais ensuite, au fond, c'est une fête. Donc on passe voilà, de l'apitoiement à la liesse assez rapidement, et les émotions ont vraiment droit de citer.
Mais de toute façon, on peut pleurer de joie, Estelle Ferrarez.
Absolument.
Il y a des pleurs de joie.
Mais il y a des pleurs...
Pas des sanglots de joie. Des pleurs.
Ah oui, il y a des sanglots de joie.
Il y a des sanglots de joie.
Mais bien sûr, par exemple, c'est ce que vous allez trouver lors d'une remise de prix, par exemple. Si vous regardez la cérémonie des Oscars, vous allez certainement être témoin d'un certain nombre de sanglots, véritablement. Hein.
Mais quand est-ce que ça commence, un sanglot ? Quelle est la frontière ?
Alors, c'est en fait quand le diaphragme se met de la partie.
Ah, donc alors, à ce moment-là, il faut aller voir à l'intérieur ce qui se passe.
Exactement, c'est une convulsion, en fait, du diaphragme qui se complique donc d'une contraction des lèvres de la glotte, c'est la définition médicale. Et donc, ça suppose un son. Donc, c'est ça qui va définir le propre du sanglot. C'est-à-dire que donc ça ne part pas des poches lacrymales, enfin, ça part vraiment donc, du diaphragme. Et donc, il y a un son qui va être produit. Voilà.
Alors, les larmes se ressemblent. Hein. C'est un poème d'Aragon, dit par lui-même, où il compare les deux guerres, celle de 14-18 et celle de 39-45, en rapprochant la souffrance des deux ennemis, les Français et les Allemands.
Dans le ciel gris des anges de faïence, dans le ciel gris des sanglots étouffés, elle me souvient de ces jours de Mayence, dans le Rhin noir pleuraient des filles fées. On trouvait parfois au fond des ruelles un soldat tué d'un coup de couteau. On trouvait parfois cette paix cruelle malgré le jeune vin blanc des coteaux. J'ai bu l'alcool transparent des cerises. J'ai bu les serments échangés tout bas. Qu'ils étaient beaux les palais, les églises. J'avais 20 ans, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je savais de la défaite quand ton pays est amour défendu? Quand il te faut la voix des faux prophètes pour redonner vie à l'espoir perdu. Il me souvient de chansons qui m'émurent. Il me souvient des signes à la craie qu'on découvrait au matin sur les murs sans en pouvoir déchiffrer les secrets. Qui peut dire où la mémoire commence? Qui peut dire où le temps présent finit? Où le passé rejoindra la romance? Où le malheur n'est qu'un papier jauni? Comme l'enfant surpris parmi ses rêves, les regards bleus des vaincus sont gênants. Le pas des pelotons à la relève faisait frémir le silence rénant.
Les larmes se ressemblent. Beau poème d'Aragon, hein. Vous l'avez écouté toutes les deux religieusement. Et précisément, Sarah Ray, moi, je voulais savoir comment la foi chrétienne a modifié l'ordre romain des larmes, en fait.
À parcourir plusieurs textes d'auteurs chrétiens, on a l'impression que ces représentants-là de cette foi nouvelle veulent se réserver les larmes, surtout dans des procédures d'expiation, hein, pour effacer les péchés. Les larmes ne vont plus du tout servir pour des transactions humaines. On a des auteurs chrétiens comme Tertullien qui disent qu'il ne faut plus s'autoriser à pleurer justement dans un tribunal. Parce qu'au fond, qui décide de la vraie justice, c'est Dieu.
Donc il y a un côté aussi heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés.
Alors oui, ça c'est dans les béatitudes, en effet. Il y a surtout du temps où la religion chrétienne est persécutée, on s'imagine bien qu'il lire et relire ce type de phrase paradoxale qui promet donc un bonheur qui viendra après la mort, cela console. Les chrétiens défendent aussi de pleurer leur mort, curieusement. Du moins dans les premiers siècles, puisque le trépas est considéré comme une libération et tous les anciens rites funéraires qui ménageaient une grande place aux déplorations sont critiqués comme trop impétueux et trop peu confiants dans la suite.
Oui, c'est ça, la vie, la suite, c'est la vie éternelle.
Et voilà.
Et les saints pleurent beaucoup, non ? Ils pleurent abondamment.
Oui, ça fait partie de leur point fort, on va dire. Un saint comme Saint Martin est capable de pleurer même pour ses ennemis, dans un acte de générosité vraiment incroyable. Les saints ont effectivement une qualité de pleurs qui les met déjà à part.
Et Ève, pleurante et repentante ?
Eh oui, alors la misogynie, malheureusement, elle traverse les religions et même dans le régime chrétien des affects, les femmes peuvent être mal vues pour leur sanglot. Et on va attendre d'elle qu'elle continue à faire pénitence deux fois plus, hein, comme Ève, leur modèle.
Quelque chose à ajouter, Estelle Ferrarez ?
Oui, je trouve que c'est assez intéressant cette manière que va avoir l'Église, effectivement, dans un premier temps, de laisser la place aux larmes et aux sanglots, et en même temps de les gouverner, et tout particulièrement de les gouverner chez les femmes. Et Jean Chrysostome, par exemple, donc un des pères de l'Église, va mener une véritable guerre contre les lamentations, donc contre les femmes qui se lamentent. Donc c'est aussi une lutte évidemment contre le paganisme, ça on comprend, mais il y a une réprobation sur la manière particulièrement indécente des
jugée
femmes.
Jugée indécente, oui. Jugée indécente.
Jugée indécente, enfin, c'est son propos. Ouais. Notamment puisque ça va parfois supposer de s'arracher les vêtements, de se griffer, etc. Ouais. Et donc de se comporter d'une manière qui n'est pas chrétienne dans l'espace public. Donc il y a ce souci de gouverner qui va ensuite passer par exemple dans la peinture et l'Église va véritablement considérer comme un moyen pédagogique que de représenter la Vierge d'une certaine manière dans les tableaux où notamment elle pleure la mort de son fils et donc de montrer comment une femme doit pleurer, c'est-à-dire en général on la voit assez fréquemment simplement s'évanouir ou bien pleurer de manière extrêmement digne, on voit à la limite une larme, mais on ne la voit pas sangloter, justement pas du tout s'arracher les vêtements, etc. Donc c'est un outil, hein, presque une arme, j'allais dire, qui va être placée dans les églises pour montrer, voilà, jusqu'où et comment est-ce que les pleurs sont acceptables.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez, Lola Yang.
When you come around.
Tout à l'heure, nous évoquions le film Cuirassé et Potemkin. On a beaucoup utilisé les larmes au cinéma et en général, d'ailleurs, ça donne de belles scènes, des celles dont on se souvient. Estelle Ferrarez, vous en parlez pas mal dans votre essai. Autant n'emporte le vent, La vie d'Adèle, Théorème, India Song. Y a là une esthétisation des larmes?
En tout cas, une manière de dramatiser et de rompre le cours de l'histoire, la marche du temps. En fait, je crois que c'est ça. C'est pas, ça peut être esthétisé ou au contraire montré dans toute sa laideur. Hein. Par exemple, La vie d'Adèle. On a une scène dans laquelle Adèle précisément est en train de se montrer rougie, bouffie, avec de la morve qui lui sort du nez. Donc c'est vraiment montré d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir une simple larme qui coule délicatement. Enfin, les sanglots ou les pleurs particulièrement violents sont une manière de créer des sortes d'acmés dans le récit, notamment parce que les sanglots font irruption, on va dire, dans le cours du temps. Hein. C'est quelque chose que nous vivons nous-mêmes lorsque nous sanglotons. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de présent qui s'installe extrêmement fort. Le passé comme le futur s'évanouissent et nous ne sommes plus que là, nous ne sommes plus que notre corps. Il y a une sorte d'éternité, j'allais dire, qui ne dure que quelques secondes et qui donc change complètement la texture du temps. Et c'est quelque chose qui est donné à voir par le cinéma. Oui.
Vous évoquez également Café Muller de Pina Bausch avec trois femmes qui dansent dans un sanglot. Et sur la couverture, c'est Pina Bausch elle-même?
C'est ça. C'est elle-même qui danse le Café Muller, qui est un ballet qui m'a énormément inspirée pour penser l'impuissance et les sanglots. Et on voit donc notamment deux danseuses, dont Pina Bausch, quand c'était elle qui le dansait, donc qui se cognent dans des chaises, dans des tables qui sont accumulées au sol, et donne à voir à la fois le sanglot, elle danse le sanglot, mais elle donne aussi à voir ce que c'est justement que des corps qui n'ont pas de prise. On parlait tout à l'heure de prise. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de prise dans le monde? On se cogne dans le monde et c'est quelque chose qu'elle montre admirablement.
Et qui est en couverture de votre livre, Sarah Rey? Moi, je crois que c'était une femme, mais pas du tout.
Ah non, c'est un héros, tout ce qu'il y a de plus viril, Agamemnon.
Non, mais il a des mains d'une finesse folle.
C'est une fresque de Pompéi qui est inspirée d'un tableau grec qui avait fait couler beaucoup d'encre dans l'Antiquité.
Les larmes de Rome, c'est aux éditions Anna Mossa, Le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité. Merci à vous, Sarah Rey. Estelle Ferrarez, Une philosophie des sanglots, est publiée chez Bibliothèque Rivage. Et puisqu'il me reste 10 secondes, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il se trouve que je viens de le finir, Quand s'arrêtent les larmes, de Jean-Noël Pancrazi. C'est un récit de moments très forts qu'il a vécu, donc lui, je pense que c'est autobiographique, et sa petite sœur Isabelle, frappée par la maladie, mais une joie de vivre d'Isabelle oblige les autres, le frère, en l'occurrence celui qui écrit.